Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Depuis 3 ans, Laurent Voulzy a donné près de 200 concerts dans des cathédrales, des abbatiales, des basiliques. Ces vaisseaux de pierre qui touchent les cieux. Et cela en France, en Belgique, en Angleterre, rassemblant ceux qui s'interrogent, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Mais porté par les mêmes émotions grâce à la musique. Il était donc temps qu'il partage avec nous, au travers d'un livre, sa fascination pour ces lieux mystiques où la lumière, les sons et le silence viennent d'ailleurs. C'est chose faite, Laurent Voulzy publie chez Stock, Mes cathédrales, écrit en collaboration avec le journaliste Laurent Geoffrin. Et c'est un bonheur de vous accueillir, cher Laurent, bonjour.
Bah écoutez, c'est un plaisir d'être ici, Isabelle.
Alors Laurent Voulzy, depuis 3 ans, donc, comme je viens de le dire, vous donnez des concerts dans des cathédrales, des abbayes, des basiliques, des lieux qui rendent palpable l'invisible. Or, quand on vous interroge sur la foi, vous confiez « Dans une église, je sens, je frôle les réponses, elles sont pas loin, mais je les ai pas. Le mystère est trop grand, vous doutez toujours ?»
Ah oui, je doute, mais avec une impression qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses invisibles autour de nous, voilà. Mais j'aimerais avoir une... Il y a certainement quelque chose, oui. Ouais, ouais.
Dans l'introduction de ce livre, donc, Mes cathédrales qui paraît chez Stock, vous confiez qu'à l'âge de 10 ans, vous avez reçu un cadeau de Noël qui a chamboulé votre vie en faisant naître une véritable passion pour cette longue période méconnue de l'histoire qu'on appelle le Moyen-Âge. Ce cadeau n'était qu'un château fort en bois et en carton, mais il vous a fait voyager très très loin, hein.
Ah oui, oui, il y a eu ce feuilleton Yvan Noé qui passait à la télé quand j'étais petit.
Oui.
Et puis alors donc, comme j'étais Yvan Noé à la récréation et tout, ma mère m'a offert un château fort en carton. Et donc, j'ai commencé à me passionner comme ça. C'est venu tout seul. J'ai commencé à me passionner pour l'histoire en général. Et à la maison, il y avait 7 volumes d'Histoire de France qui dataient de 1880, oui, avec des gravures merveilleuses qui ressemblaient à Gustave Doré.
Oui.
Et en fait, une fois que j'ai été jusqu'au bout de ce bouquin, je suis revenu au Moyen-Âge, j'ai attiré par cette époque. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, je me suis pris de passion pour cette époque, effectivement. Ouais.
Donc, adolescent, Laurent Voulzy, vous avez dévoré les ouvrages sur l'ésotérisme, sur les Templiers, sur la pierre philosophale, sur les forces telluriques, sur ce fameux nombre d'or grâce auquel on a bâti les cathédrales, et bien avant d'ailleurs la pyramide de Khéops. Et puis tout ça a fait une fascination pour ces géants de pierre qui vont caresser les cieux, c'est-à-dire que, en fait, sans être croyant, vous avez vraiment tourné autour du sujet en vous en approchant le plus en plus.
Alors j'ai une éducation, comme j'étais en France avec une maman catholique, donc j'ai épousé le culte catholique, et donc j'étais au catéchisme quand j'étais petit, ensuite j'étais cœur vaillant, puis ensuite quand on a 14-15 ans, on n'est plus cœur vaillant, on ne va plus au catéchisme.
On va plus à la messe.
Mais quelques
on regarde les filles.
Voilà, on commence à regarder les filles, à gratter la guitare. Mais en même temps, la première chanson que j'ai composée, les premiers mots, je ne vous la chanterai pas, mais c'était « Comme j'aurais aimé vivre à l'époque médiévale ». Je me rappelle, c'est la deuxième chanson que j'ai faite. La première, j'avais touché une guitare, je jouais à l'envers, en plus je ne savais pas. C'est un copain de mon palier qui m'a prêté une guitare. J'avais composé une chanson qui était complètement pompée sur Elvis Presley, mais je croyais que je l'avais composée. Et la deuxième, j'avais fait des paroles que j'avais écrites, c'était « Comme j'aurais aimé vivre à l'époque médiévale », c'est ma première vraie chanson.
Vous aviez quel âge quand vous avez écrit et composé ça ?
15 ans.
Ah oui ?
Et alors, à partir de cette époque-là, surtout vers 18 ans, j'ai commencé avec des copains à m'intéresser. On avait des discussions de tout, évidemment, des filles, mais aussi de la guitare, des Beatles, et aussi des choses mystérieuses, comme l'infini, comme qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce qu'on était là avant, est-ce qu'on sera là après. J'ai commencé à m'intéresser à ça, et à lire des livres sur les Rosicruciens, sur les bouddhistes, sur le bouddhisme, etc. Ça commençait à me titiller, quoi, depuis cette époque-là.
À me tarauder.
Voilà, à me tarauder. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire aussi des plus tard, les mystiques chrétiens.
Oui, oui.
Et tout ça m'a amené vers les cathédrales petit à petit, parce que les cathédrales, c'est vraiment un résumé de tout ça.
Hein. Alors, dans ce livre, vous nous entraînez dans 14 cathédrales abbatiales et basiliques dans lesquelles vous avez chanté. Bah, il fallait bien choisir, alors que vous avez chanté dans près de 200 lieux de culte ces dernières années. Et on sent votre émotion très vive quand il s'agit de nous raconter l'aventure folle du concert dans l'abbatiale du Mont-Saint-Michel.
Ah oui, ça c'était tout à fait extraordinaire. La première fois qu'on est arrivé dans l'abbatiale, c'était quelques mois avant le concert. C'était un jour d'avril, il faisait très beau. Il était 9h du matin, il n'y avait personne. On était cinq personnes concernées par le futur concert, plus la personne qui le recevait, le merveilleux Xavier Bailly, grâce à qui on a pu faire ce concert. Et alors, une fois qu'on a décidé de l'endroit où on allait jouer, je vais au fond de l'église. Et je tombe sur une femme habillée en bleu, une sœur. On se dit bonjour, on se serre la main. Et puis, elle me dit, vous êtes en promenade? Je fais, oui. Vous visitez? Je fais, oui. Elle me dit, vous êtes déjà venu là? Je fais, ici? Non, précisément, non. Et je lui dis, vous habitez ici? Alors, elle me dit, oui. Je lui dis, vous habitez une belle maison? Elle me dit, oui, oui. Je lui dis, vous avez de la chance. Et je ne savais pas si elle m'avait reconnu ou pas. Et elle me dit, c'est juste une visite comme ça. Je fais oui, c'est un petit peu professionnel aussi parce qu'on va venir. Je ne dis pas qui je suis, rien du tout. Je dis il va y avoir un concert ici. On est venu voir. Ah et c'est quand? Je dis au mois de septembre. Ah, je ne serai plus là. Ah bon? Et elle me dit vous savez, j'ai travaillé sur une de vos votre maison, ce que vous avez sur une île. Je lui dis j'ai pas de maison sur une île. Mais si en Bretagne. Ah, je lui dis oui, j'ai une maison en Bretagne. J'ai travaillé sur cette maison. Je lui dis, mais c'est extraordinaire ce que vous me dites. Je lui dis, mais travailler comment? Elle me dit, je travaillais dans le cabinet Mofra. C'est un ami architecte. Alors je lui dis, ah bon, mais ça c'est extraordinaire. Donc vous êtes architecte aussi? Oui, j'étais architecte. Ah, et c'est comment votre nom? Jeanne. Elle me dit, ah c'était extraordinaire. Ça c'était une rencontre.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie.
Et alors l'acoustique. Alors on vous le dit, l'acoustique dans une église, elle est si particulière qu'elle oblige les ingénieurs du son à des réglages très inattendus pour que tout le monde entende les notes en même temps et pour que les notes ne se transforment pas selon la forme des nefs, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, bien sûr. En fait, on a deux contraintes quand on est dans une église, ce qui n'est pas tout à fait le cas l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, parce qu'elle n'est pas très grande en fait. C'est vraiment la... Je pense que c'est le plus petit endroit dans lequel on est passé. Le Mont-Saint-Michel est absolument extraordinaire, mais l'église elle-même n'est pas très grande par rapport à des cathédrales qu'on a faites ou des grandes églises.
Donc le son ne tourne pas trop?
Pas trop. Mais dans la plupart des cathédrales, évidemment, elles ne sont pas faites pour la pop musique. En tout cas, pour les batteries
et
pour les basses.
Mais vous ne faites pas que de la pop musique.
Non, mais même si c'est de la pop musique, on l'a fait. Il faut la faire soft et il faut respecter.
Et vous la réorchestrer.
Il y a deux choses. Premièrement, choisir le répertoire.
Bien sûr.
Et puis, deuxièmement, faire des arrangements en fonction du lieu qui, lui, n'est pas neutre. C'est pas un zénith, c'est pas un théâtre. C'est. Il y a des théâtres qui ont vraiment une âme, évidemment. Alors, l'église, quand vous rentrez dans un zénith l'après-midi à 6 heures pour venir répéter, c'est froid. Quand vous rentrez, il n'y a rien, c'est vide. Hein.
Mais le soir, avec 6000 personnes.
Voilà, il prend vie, il prend vie avec les gens.
Bien sûr.
Tandis que dans une cathédrale, il y a de la vie sans les gens. C'est déjà habité. Et donc, il faut respecter le lieu, et il y a les chansons, il faut que ce soit en harmonie avec le lieu, et elles prennent une dimension, pour vous répondre à ce que vous disiez, et les chansons, certaines chansons prennent une dimension, à tel point que des fois, je suis surpris moi-même, et je suis... Oh, alors ça fait autosatisfaction, mais c'est pas vraiment ça. C'est que je deviens spectateur et auditeur des chansons par moment, à cause de la lumière, à cause de ce que je vois quand je chante. C'est assez impressionnant parfois. Ouais. Ouais.
Juste avant de faire une pause, Laurent, vous le dites, j'imagine que le clergé doit se réjouir de cette aventure, parce que 200 concerts dans des cathédrales et des basiliques qui peut-être ont, je vais dire, éveillé les consciences de non-croyants, ça n'est pas anodin.
Peut-être, oui. Alors non, mais ce qui est marrant, c'est que plusieurs fois, il y a des prêtres qui nous présentent et ils disent, bon, j'espère que... Je pense pas que dimanche, il y a autant de monde que ça dans à la messe que ce qu'il y a ce soir. Mais bon, ça, c'est rigolo. Mais non, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens qui habitent à côté de la cathédrale. Plusieurs fois, j'ai vu ça. Et qui m'ont dit, c'est la première fois qu'on rentre ici. C'est assez touchant, d'ailleurs. Des paroissiens qui viennent pour voir. Là, lui, monsieur le curé a dit qu'il y avait un chanteur qui venait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce gars qui passe à la télé, qui vient chanter là. Et voilà, non, mais il y a toutes sortes de gens, mais moi, ça m'impressionne.
La chanson, en fait, qui est la plus reprise en chœur, sous ses nefs, par ce public-là, c'est laquelle ?
Belle île en mer.
Belle île en mer.
C'est celle-là.
C'est en compagnie de Laurent Voulzy qu'on se promène cet après-midi. C'est épatant. On est bien sur Europe 1. Alors on se retrouve tout de suite. On écoute Jeanne qui figure sur l'album Listen Love de Laurent Voulzy.
Enfin, je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine. Celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. Celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, si la vie est un rêve, que l'amour m'enlève, tout contre vous, Jeanne. Comme des amants, et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de
Chanson magnifique, extraite de l'album Listen Love de Laurent Voulzy. Jeanne.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Laurent Voulzy fait paraître chez Stock mes cathédrales. Et je rappelle que son concert magique, donné en l'abbaye du Mont-Saint-Michel, est disponible aussi bien en DVD qu'en CD. Laurent Voulzy, vous êtes, comme vous l'avez chanté, né dans le gris par accident, puisque votre maman est venue seule de Guadeloupe pour accoucher en France. Vous avez parfois imaginé ce qu'aurait été votre vie si vous aviez grandi en Guadeloupe ?
Non.
Non.
Non, 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 non. Mais je peux y penser comme ça, mais ça n'a jamais été une pensée récurrente ni quelque chose qui m'a troublé. Bien sûr que j'ai pu y penser. Je sais pas ce que je sais pas. J'ai l'impression que...
Parce que vous y êtes allé tard, hein, la première fois, à l'âge de 35 ans.
35 ans.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est pas mal ce qui m'est arrivé, quoi. Non, mais c'est vrai parce que j'ai eu une vision, toujours aujourd'hui encore. J'ai connu les Antilles jusqu'à l'âge de 35 ans. J'entendais parler créole à la maison quand la famille venait. Je mangeais de la cuisine antillaise, de la Guadeloupe, enfin créole. Je dansais la biguine. Enfin, j'entendais.
Mais c'était des Antilles fantasmées, en fait.
C'était des Antilles, c'était les vraies Antilles. Il y a des moments, j'étais vraiment dans une famille antillaise quand des familles venaient puis que j'entendais parler créole. Mais en fait, aujourd'hui, donc tout ce que j'entendais des Antilles, c'est des histoires que me racontaient ma maman et ma famille. Donc j'ai une vision poétique de la Guadeloupe,
ouais.
Un peu fantasmée, c'est vrai. Et quand je vais là-bas, j'adore parce que j'ai cette vision encore. Mmh. C'est-à-dire que c'est un mélange de ce que je vois vraiment et de ce que j'ai imaginé. Et c'est très joli. Et en plus, cette passion que j'ai pour l'histoire, pour l'Hexagone ici, peut-être l'aurais-je moins eu oui. Si j'avais été allé là-bas. Donc je trouve que j'ai de la chance, en fait. Voilà.
Alors, Laurent Voulzy, vous avez un aïeul célèbre, Gaston Gerville-Réage, qui fut le premier député métis à l'Assemblée nationale, un libre penseur dont l'un des discours fut applaudi par Victor Hugo.
Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Non, non, oui, il y a eu un fameux banquet, en la date, je ne sais plus, c'était avant la mort de Victor Hugo, donc ça devait être dans les années 1880 ou ouais. Déjà. Il y a eu un banquet, il y avait une centaine d'invités, je pense, avec des gens. Et puis lui, il a fait un discours, et à la fin de son discours, effectivement, Victor Hugo a applaudi. Mais enfin, il a parlé, il a dit quelques mots qui ont dû toucher un peu l'auditoire, ou par politesse, je ne sais pas. Enfin, Victor Hugo a fait partie des gens, a applaudi, a remercié, et ensuite, Victor Hugo a pris la parole. Mais voilà, non. Oui, c'est vrai que c'était un arrière-grand. Oncle ou peut-être oui. Un arrière-arrière-grand-père et qui était vice-président de l'Assemblée nationale et métis à l'époque, le seul.
Donc, après, et très jeune, et d'ailleurs.
Après, il y a eu Légitimus.
Oui, ouais, exactement.
Ouais. Presque en même temps.
Ouais. Mais ouais, vous êtes cousin avec Pascal ouais, Légitimus. Ouais, ouais. Et votre père, que vous avez peu connu car il est resté en Guadeloupe, a lui aussi fait de la politique.
Oui, il était conseiller général. Oui, oui, oui. Ouais.
Alors, il y a une anecdote très attendrissante au sujet de votre maman qu'il faut nous raconter. Elle avait 13 ans, le monde était en guerre, et elle avait un plan pour aider à sauver la France.
Ah oui. Elle est allée subrepticement dans la chambre de sa maman, qui était une maman adoptive. Ma famille est un peu compliquée, et romanesque, on va dire. Et donc, elle est allée dans la chambre, elle a pris les bijoux, elle est allée voir un monsieur qui s'appelait Martial, qui était pêcheur.
Oui.
Qui avait une barque au bord de l'eau, et elle lui a dit « Est-ce que tu peux m'emmener de l'autre côté de la mer, en Europe ?» Parce que là, regarde ce que j'ai, elle a ouvert son sac, regarde, j'ai pris les bijoux de ma maman, je vais les vendre là-bas, puis je vais donner l'argent au général de Gaulle pour sauver la France.
C'est admirable.
Oui. Alors Martial, il a dit « Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. » Il est allé voir la maman, il a dit « Bon, là, il y a un petit problème, parce que... » Regarde dans ton tiroir, les bijoux. Ah, ils sont plus là. Bah non.
Mais c'est pour sauver la France.
Voilà, c'est pour sauver la France. Mais bon, du coup, elle est restée quand même en Guadeloupe. Du coup.
Enfin, quelques années plus tard, quand même, elle est venue en France où vous êtes née. Donc, la France, voilà, a été votre berceau à vous. Votre maman rêvait d'une carrière de danseuse. Et il paraît qu'en référence à Joséphine Baker, on l'avait surnommée Malice Baker.
C'est elle. Elle dit que c'est moi qui ai trouvé ce nom-là, mais j'étais tout petit. Moi, je pense que c'est elle ou pas. Enfin, bref. Son nom d'artiste, c'était Malice Baker.
Donc, vraiment en référence à Joséphine. Non ?
Certainement. Je sais qu'elle adorait Joséphine Baker. Et peut-être, ouais. Donc, elle a fait des tournées en France. Elle avait monté une petite troupe à deux danseuses. Et elle a fait elle faisait des petits théâtres et tout, des cabarets en France, en Belgique, je crois en Allemagne aussi. Et voilà, elle a été artiste aussi. Ouais,
artiste aussi. Alors, votre maman, elle venait d'une île où l'on croit aux esprits, n'est-ce pas ? Et elle a rencontré un homme, alors lui qui ne croyait qu'en la science, et il croyait en fait aux lois mathématiques, à la puissance du raisonnement, il était physicien. Donc vous avez grandi entre une maman qui croyait à l'invisible et un beau-père qui ne décryptait le monde que par les lois de la physique.
Voilà. C'était intéressant les discussions.
Ah, j'imagine.
Non, mais j'aimais bien. Alors, c'est ma mère discutait pas trop. Bon, elle laissait croire qu'il y avait rien. Mais... Mais moi, quand même, j'essayais de lui dire quand même, mais il faut avoir l'esprit plus ouvert et tout. Mais en même temps, j'aimais bien ses arguments. Quand je lui parlais de réincarnation, par exemple, il me dit oui, je vais me réincarner. Quand je serai dans la Terre, je vais être mangé par des bêtes, je vais faire du gaz, je vais dégazer des éléments qui vont nourrir des plantes, je vais peut-être rentrer dans un arbre.
Mais, voilà, en fait, mais tout ça était très concret.
Voilà, très concret. Alors je lui disais, oui, mais il y a la réincarnation, c'est pas tout à fait ça.
Il y a l'âme.
Ça peut être autre chose. Et il me dit, ça pèse combien l'âme ? Alors, bon là, il faisait exprès, il charriait un peu. Ouais, il était assez physicien.
Voilà, assez physicien, fidèle à ses convictions à sa nature profonde.
Mais j'aimais bien en même temps discuter avec lui de ça, avec mon frère aussi, qui est passionné. Mon frère est vraiment... un de mes frères est très passionné par la physique et l'astronomie, tout ça, donc on discutait avec lui, mais mon frère est passionné par l'astronomie, mais il croit quand même qu'il y a peut-être des choses quand même dans l'invisible. Parce que mon père, c'était pas tout à fait ça.
Pas tout à fait ça.
Non, non.
Alors,
enfin, je dis mon père parce que je l'appelais papa.
Oui, et il vous a élevé. La musique, donc, vous a ouvert, j'imagine, en fait, d'autres portes, celles de l'émotion. Alors, les Beatles, les Who, les études de Bach, les Beach Boys. En fait, jamais, Laurent Voulzy, vous ne vous êtes projeté autrement que par la musique. À 15 ans, vous saviez ce que vous vouliez devenir, c'est-à-dire musicien, compositeur, chanteur.
Oui et non, c'est-à-dire... Quand je suis rentré au lycée, interne au lycée, et qu'on a fait notre premier groupe d'harmonica d'abord, et ensuite à Noël, ma mère m'a offert une guitare, on est tous devenus des guitaristes, on a fait notre première avec des guitares au lycée des filles, on rêvait d'être les Beatles, voilà. Je rêvais de ça. À la récréation, je jouais de la guitare. Le samedi, quand je sortais, j'étais interne, on allait répéter, je jouais de la guitare, j'étais tout le temps avec ma guitare. C'était ma passion, mais c'était flou en même temps. À la fois, je voulais être Beatles et en même temps, je cherchais quel métier j'allais faire. Donc, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, je ne savais pas trop. Mais j'avais déjà passé des auditions dans les maisons de disques. Je me disais, j'aimerais bien être en m'entendant à la radio. Et en même temps, je cherchais un vrai métier.
Alors, je parlais des Beatles, des Beach Boys, des Who. Bon, plus tard, vous avez découvert les chants grégoriens, la musique médiévale, les textes sacrés. Et pendant de nombreuses années, alors que vous étiez devenu une star de la pop en France, vous vous nourrissiez dans l'intimité de toutes ces musiques médiévales. Nous, le public, on ne l'a compris que... à la sortie, en fait, en 2011, de l'album « Listen Love ». Soudain, vous vous révéliez au grand jour. On ignorait tout ça de vous.
Oui, peut-être. Il y avait eu déjà des approches, par exemple, dans l'album « Caché derrière ».
Voilà.
Il y avait ça. Quand on a fait la tournée en 2002, d'un album que j'avais fait, qui s'appelait « Avril », le décor, c'était des ogives de cathédrale. Déjà, il y avait ça. C'est un rêve que j'avais fait, donc on avait réalisé ce rêve. Avec les ogives, mais vraiment pour le grand public, c'est Listen Love. C'est Listen Love, le moment où je me dis, je fais un album inspiré par le Moyen-Âge, la France, l'Angleterre, où je vivais à moitié du temps,
oui.
Et un peu, entre guillemets, la mystique.
On poursuit cette conversation en compagnie de Laurent Voulzy dans, vraiment, quelques instants. On fait une pause très courte.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Alors, cher Laurent Voulzy, bon, on va épargner à nos amis auditeurs le récit, j'ai envie de dire 100 000 fois rabâché, de votre rencontre avec Alain Souchon. Je dis simplement rapidement comme ça, au cours d'un goûter sur l'herbe organisé par votre maison de disques en juin 73 et réunissant plusieurs jeunes chanteurs pas encore connus. 48 ans ont passé et ensemble, Souchon et vous, vous avez façonné la pop française depuis des décennies, vous la façonnez. Pourtant, vous avez des tempéraments différents. Alain est rapide. vous êtes lent. Alain est pessimiste, vous êtes optimiste, mais vous avez vraiment la même exigence en musique et vous dites, c'est pas de l'amitié en fait, on est des frères. Mais vous êtes des frères qui se voient pas si souvent que ça?
Non, là ça fait un moment qu'on s'est pas vu.
Ça fait combien de temps?
Oh, remarquez, je dis ça fait pas si longtemps. Non, là ça va. Là ça fait peut-être un mois et demi qu'on s'est pas vu, oui. Non mais, des fois on est resté 4-5 mois sans se voir, oui, ça arrive. Il est arrivé qu'on se voit pas pendant des mois et des mois. Ça arrive, ouais.
Alors Souchon dit que vous vivez une relation idéale de frère. Il dit aussi que, bon, sans faire de jeunisme ridicule, lui et vous êtes toujours adolescents, comme le sont les Stones. C'est votre ressenti?
Oui.
Ouais, définitivement.
Oui, ouais, définitivement, oui. On mourra jeune.
Ouais, vous n'êtes jamais passé par la case adulte.
Non. Moi, j'aime bien. Alain dit une phrase que j'adore. Il dit « J'étais fait pour être jeune ». J'adore cette phrase.
Que c'est joli, j'étais fait pour être jeune. On peut parler d'une capacité d'émerveillement, même si on a dû traverser mille combats. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être plus sage, mais en même temps, on garde une ferveur, une euphorie, une gourmandise de la vie. Ça, vous l'avez toujours de la même manière.
Oui, c'est bien ce que vous avez dit, oui, c'est exactement ça. C'est surtout la capacité, le don, c'est un cadeau d'être émerveillé.
Ouais.
On se force pas, quoi. Je suis émerveillé sans arrêt par plein de choses, évidemment horrifié par d'autres. Mais si on est horrifié par d'autres, il faut pouvoir être émerveillé par... Il faut les deux, quoi.
Exactement. Alors, vous avez parlé des enfants. Vous avez 4 fils, Laurent Voulzy.
Ouais.
Pour chacun d'entre eux, la musique est vraiment le point d'ancrage.
Ben oui.
Tous les 4 sont musiciens.
Dit-il dépité. Oui.
Pourquoi dépité?
Non, mais je dis ça comme ça. Il n'y en a pas un qui est architecte ou chercheur.
Vous auriez
ou
aimé
pas. Oh bah pourquoi pas. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent ce qui les passionne. C'est le plus important. Donc, ils sont passionnés. En tout cas, ils font de la musique tous. Ouais.
Lequel des 4 échange le plus musicalement avec son père?
Tous échangent un petit peu. Éventuellement, le dernier, Quentin.
Qui a 18 ans.
Qui fait ses études en Angleterre. Qui est en Angleterre depuis l'âge de 3 ans. C'est peut-être lui qui m'envoie de temps en temps le plus les morceaux qu'il a faits. Et... on a même travaillé ensemble sur un morceau. On a
ah oui, il compose
peut-être,
déjà.
Peut-être, ah oui, c'est peut-être lui. Mais en fait, les autres aussi m'envoient aussi les morceaux qu'ils ont faits. Des fois, on se retrouve tous à la campagne et on se fait écouter chacun nos chefs-d'œuvre.
Oh, j'aimerais tellement assister à ces réunions.
Et bon. Des fois, on se dit, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, papa, c'est pas un chef-d'œuvre ce que t'as fait, là.
Ça doit être assez rare, ce genre d'avis. Quentin a donc passé toute sa jeune existence en Angleterre, où vous avez posé pendant plusieurs années vos valises.
Oui, oui, oui.
Les Anglais et nous sommes des peuples vraiment très, très différents.
Moi, je trouve que oui. Je trouve que oui. Ils ont un esprit différent du nôtre. Et en même temps... il y a une vraie histoire d'amour et de guerre entre les deux peuples.
Ouais, la perfide Albion.
Voilà, mais depuis.
D'amour-haine.
Depuis longtemps. En même temps, la France est omniprésente depuis Guillaume le Conquérant, qui était français, qui est arrivé là-bas et qui est devenu roi en Angleterre. Donc, d'ailleurs, sur le drapeau anglais de l'ancien drapeau, il y avait des fleurs de lys et des lions.
Ouais.
Et c'est des peuples, on est différents.
Mais alors, par exemple, nous, les Français, disons que les Anglais sont assez déjantés.
Oui.
Ils ont une fantaisie qu'on n'a pas. Une audace qu'on n'a pas.
Ils ont un esprit qu'on n'a pas. Les Anglais trouvent. Les Anglais trouvent qu'on est. Comment ils appellent ça? Arrogant.
Ah oui. Mais il n'y a pas que les Anglais qui trouvent que les Français sont arrogants.
Ouais. En tout cas, les Anglais le pensent. Et ils pensent aussi, ils ont une façon de... J'allais à des dîners des parents d'élèves avec... il y avait les parents d'élèves, une fois tous les trimestres, il y a une famille qui reçoit dans une jolie maison le reste de la classe et, tout, et tous les parents. Alors, il y en a un qui vient me voir, il me fait, en anglais, il me fait, il y a beaucoup de monde dans les rues à Paris en ce moment. Alors, je lui fais, ah bon, pourquoi? Et là, il m'explique, c'est les grèves. Il y a beaucoup de grèves en France, non? Ils ne comprennent pas, ça.
Ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas. Il y a eu des histoires en Angleterre terribles. Hein, au moment de Thatcher, c'était d'une violence.
Ah bah oui.
Tout le nord de l'Angleterre était complètement sinistré. C'était une pauvreté incroyable à certaines époques. Mais là, ils trouvent qu'en France, pour un rien, il y a des... Mais je ne porterai pas de jugement. Mais ça les surprend. Et alors, ils ont une façon de parler. Les Anglais, souvent, c'est « never explain, never complain ».
Voilà.
C'est-à-dire, on ne se plaint pas. on n'explique pas.
Alors ça, c'est la devise de l'aristocratie. Alors, parlons-en. Nous, les Français, nous sommes profondément républicains. Les Anglais sont attachés à leur monarchie, qui est vraiment plébiscitée par les Britanniques comme une institution majeure du pays. Il n'y a pas en vous, parfois, Laurent Voulzy, j'ai envie de dire un soupçon de mélancolie quand vous voyez les rituels, le décorum et surtout cette reine hors d'atteinte, Elisabeth II, qui fédère tout un peuple.
Si, si.
Vous l'avez parfois.
Oui, oui, non, mais
ce soupçon de mélancolie.
Non,
vous dites, tiens, ça serait pas mal en France. Une monarchie constitutionnelle comme la leur.
Exactement. Mais bon, après, je ne suis pas assez connaisseur et tout, mais ce que je trouve beau, c'est qu'il y a une démocratie, ils s'engueulent comme ce n'est pas permis, ils se tirent dans les pattes les partis politiques, ils ne se font aucun cadeau comme ici. Et en même temps, au-dessus de tout, il y a une personne, c'est la reine. Et c'est comme si, au-dessus de tout, nous, au-dessus des engueulades qu'il y a entre les partis, les tirs dans les pattes, les trahisons, les machins, il y a la République. Sauf que la République, c'est pas une personne, c'est une statue ou c'est un tableau. Tandis que eux, il y a la reine. Et ça, c'est quand même, je trouve ça assez beau. Il y a quelqu'un qui incarne un truc depuis des mille ans, quoi, qui incarne l'Angleterre. Ça m'a ému quand j'ai été invité par une chaîne de télé à aller voir le mariage de Kate et William.
Oui.
Alors,
je
n'étais pas dans l'église, je n'étais pas invité du tout, mais j'étais à l'extérieur, avec toutes les chaînes de télé qui étaient à l'extérieur. Alors, j'ai vu tous les gens arriver, tous les princes, les machins, etc. Quand la reine d'Angleterre est arrivée, alors elle est descendue de la voiture, elle est allée, donc c'était sur le parvis de Westminster, l'archevêque de Canterbury est sorti pour l'accueillir. 3 mètres derrière, il y avait le prince Philippe derrière, et tous les gens, mais c'était dingue, comme une bite. C'était une émotion dingue. Je voyais tous ces Anglais qui étaient là, des milliers de gens qui étaient là devant Westminster. Et puis, elle ne se retournait pas. Je dis, mais au moins qu'elle se retourne pour les saluer, quoi. Et à un moment, à 5 mètres de l'entrée de la cathédrale,
elle se retournait,
elle a fait signe. C'était la Beatlemania. Moi, ça m'a ému.
Et là,
ça m'a ému. Le ciel
s'est entrouvert.
Mais parce qu'il y a des choses, c'est comme les autographes. C'est irrationnel. Il y a des gens qui disent à quoi ça sert d'avoir un autographe et tout. Moi, je dis c'est irrationnel. Et donc, la reine d'Angleterre qui s'est retournée et les gens qui étaient complètement exaltés, c'est irrationnel. Ça dépasse la raison, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et voilà, je trouve ça assez beau, quoi. Voilà.
Revenons à vous, Laurent Voulzy. En préparant cette émission, j'ai retrouvé un extrait de votre concert prodigieux à l'église St. John Smith Square, qui est au cœur donc de Westminster, à Londres, et où bien des têtes couronnées sont venues prier. En fait, à votre façon, avec ces concerts, vous célébrez des messes profanes.
Oh là là, c'est un bien grand mot, j'irai pas jusque... Non, c'est gentil. Je sais pas si c'est gentil ou pas, mais en tout cas, c'est ça part d'un bon sentiment que vous me disiez ça, mais je ne sais pas, non. Je trouve qu'à un moment... Alors à ce moment-là, on pourrait dire que tous les concerts sont des messes. C'est-à-dire... ce qui est beau dans les concerts, quel que soit l'endroit, c'est comme les grands matchs. C'est rare d'avoir des gens qui vibrent à la même fréquence en même temps. Mais dans un match, dans le sport et dans les concerts, tout le monde vibre à la même fréquence. Et évidemment, quand c'est dans une église, effectivement, on peut dire qu'il y a un petit peu le mot messe, quoi. Mais voilà.
Alors, vous n'avez pas donné de concert à Notre-Dame. Mais vous avez pu faire une visite hallucinante de Notre-Dame après le drame de son incendie. Et c'est le général Georges Lain, chargé de coordonner les travaux de restauration, qui vous a accueilli. D'abord, il a fallu, à cause de la fonte de toutes les soudures en plomb, enfiler une sorte de combinaison d'astronautes. Et puis avec lui, et puis toute l'équipe qui l'accompagnait, donc, vous avez traversé ce vaisseau de pierre qui est dans un état redoutable en ce moment. Il paraît qu'aucun document sur la construction de la cathédrale et ses modifications entre le XIIe et le XVIIIe siècle n'a été gardé.
Ouais,
c'est
ouais.
Fou, ça. Donc, ça veut dire, Laurent Voulzy, que personne, en fait, ne peut dire si tel pilier, telle clé de voûte est porteur de l'ensemble ou pas. Enfin, c'est un travail absolument gigantesque qui est devant eux.
Oui, oui, c'est un travail très extraordinaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de plan. Alors, le général Georges Lain, on l'a croisé, mais ce n'est pas lui qui nous a fait visiter, mais on l'a croisé. D'abord, on a eu droit à un petit cours sur le plomb, c'est-à-dire que ce n'est pas très bon à manger. Donc, il vous explique qu'on va se changer parce que le plomb n'est pas très bon.
Et ça donne le saturnisme.
Voilà. Et qu'ensuite, on est allé dans un endroit, dans des Algeco, là, des petites maisons de chantier. On a enlevé tous nos vêtements, tout. Et ensuite, on a mis un caleçon en toile papier, un pantalon en toile papier, un t-shirt en toile papier, une veste en toile papier, le casque, les bottes, et là on peut rentrer dans la cathédrale avec un masque. Et au retour, je parle directement du retour, au retour on enlève ses vêtements, on les met dans un papier, tout va être brûlé, et ensuite nous, on prend une douche, et là on se rhabille. Et les gens qui travaillent là-bas font ça deux fois par jour. Donc ça c'est une chose, c'était une très curieuse visite parce que il y a des palissades à l'intérieur, il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas aller. Alors, ils vous expliquent que là, ils vont rénover, que là, là ça n'a pas été touché par miracle. Vous regardez en haut, c'est éventré.
Vous voyez le ciel.
On voit le ciel. C'est assez impressionnant. Mais je vais vous dire quelque chose de bizarre. Je n'ai pas eu une très grande émotion. J'avais l'impression de visiter un chantier, quoi. En plus, il y avait des bruits. Parce que ce qui est beau dans une église, c'est le son, c'est-à-dire le silence a une qualité. Puisque là, il y avait un petit peu de bruit, de travaux à l'extérieur, des gens qui parlaient, etc. J'avais l'impression... Alors, j'étais dans la cathédrale, mais je n'arrivais pas à le réaliser. Par contre, quand j'ai vu à la télé le toit, et surtout quand j'ai vu la flèche tomber. Ça m'a impressionné. Et ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai eu l'impression que la cathédrale s'immolait. Le soir où il y a eu l'incendie, le président Macron devait parler. Ça faisait 3 semaines que tous les jours à la télé, on nous disait « qu'est-ce que va dire le président Macron ?» On était en pleine crise, hein, sachant qu'après le débat, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui vont lui tailler un costard, ce qui est bon, ce qui est le jeu habituel. Là, d'un seul coup, la cathédrale brûle, terminée pour Macron. Tout le monde entier s'est mobilisé sur cette cathédrale. Et j'ai l'impression que, quand la flèche est tombée, j'ai l'impression qu'elle disait « arrêtez vos âneries, quoi. Arrêtez votre égoïsme. Il y a autre chose, quand même. Pas forcément le ciel, mais il y a autre chose. Arrêtez vos bêtises, quoi. » J'ai l'impression qu'elle s'immolait. Ça m'a fait une très curieuse impression. Et quand vous parliez tout à l'heure des plans, alors ça c'est Jean-François Kahn, avec qui on a visité la basilique de Vézelay. Il nous expliquait que la cathédrale de Viollet-le-Duc, quand il a retravaillé sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, en fait, il s'est basé sur une description de Victor Hugo que Victor Hugo avait imaginée.
Non.
Si. Ça a vérifié avec Jean-François Kahn, mais il avait l'air sûr de lui. Je trouvais ça très, très, très amusant. Oui, follement romanesque. Et les choses qui avaient disparu, Victor Hugo les a imaginées. Et Viollet-le-Duc s'est inspiré de ça.
Magnifique. La boucle était bouclée. On retrouve tout de suite Laurent Voulzy.
Europe 1.
Et si on écoutait Belle Île en mer, Marie Galante, qui a été élue parmi les 14 meilleures chansons du siècle.
Belle Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mon Ceylan. Vous, c'est l'eau, c'est l'eau. Léger, au lait mélangé, séparé petit enfant, tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie Galant, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est l'an. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laissé tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solide. Je le voyais passer, séparé.
Bien sûr, c'est « Belle île en mer, Marie Galante » que vous venez tous de fredonner. Chanson composée par Woolsey.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Laurent Woolsey, vous êtes un magnifique cachotier. Parce que il vous a fallu du temps pour oser révéler votre passion pour le Moyen-Âge. Ces mystères profonds, ces histoires immémoriales, et puis ces vaisseaux de pierre que sont les cathédrales. Et de la même façon, vous cachez depuis quelques années, le travail que vous avez entrepris sur une aventure hors norme, qui est l'écriture d'un spectacle musical consacré à Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc.
Mais je sais que vous n'aimez pas évoquer les projets tant qu'ils ne sont pas aboutis.
C'est vrai. Mais j'en ai déjà parlé un peu de ce projet.
Un petit peu. Alors, par exemple, vous vous avez entraîné dans ce projet, à moins que ce soit lui qui ne se soit manifesté, l'historien Franck Ferrand.
Oui, qui est passionnant. Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'il faut quand même se baser sur des choses réelles, quoi. Puis il a eu des très bonnes idées, bien sûr. C'est quelqu'un que j'écoutais à la radio, que j'adorais écouter, hein, vraiment.
Oui.
Qui est vraiment un puits de science historique, enfin d'histoire. Et travailler avec lui est un bonheur. Donc on avance. Et aussi, je travaille avec un parolier qui s'appelle Pierre-Dominique Burgot.
Qui est l'auteur de la comédie musicale Le Soldat
Rose. Le Soldat
Rose,
ouais. Et puis évidemment, Alain a déjà participé d'office.
Alain Souchon. L'affaire.
Et il est sur l'affaire déjà d'office, parce qu'il y aura quand même Jeanne dedans. Et donc la chanson, et puis d'autres choses aussi, donc, et puis à venir. Donc voilà, on avance tranquillement là-dessus. Et je vais mettre un coup d'accélérateur bientôt. Là.
Oui, parce que connaissant votre goût du perfectionnisme, j'espère néanmoins qu'on verra le résultat avant 2025.
Oui, j'espère aussi. Oui, j'espère bien.
C'est pas dit.
Si, je pense que si. Mais alors, évidemment, le personnage de Jeanne d'Arc, c'est inutile de dire qu'il est passionnant, quoi. Très extraordinaire, c'est un peu l'héroïne idéale, quoi. Et mystérieuse.
Mais alors, pardonnez-moi d'être curieuse, hein, mais vous nous promettez quoi pour ce spectacle musical d'une dimension et d'une ambition très particulière? Il ne s'agit pas du tout d'une comédie musicale, il s'agit d'un spectacle musical. Vous imaginez une scène singulière. Je ne sais pas, vous avez commencé à faire le casting pour trouver votre Jeanne d'Arc?
Alors écoutez, là, je ne vous en dirai rien du tout. En tout cas, travailler autour de ce projet et autour de ce personnage est absolument passionnant, quoi.
Il est certain que le projet verra le jour. Voilà.
J'espère bien.
Bon, vous n'avez pas voulu répondre à ma question sur le casting de Jeanne, mais en parlant de casting, j'ai appris une chose étonnante, Laurent Woolsey. Il paraît qu'au tout début de l'aventure de The Voice, TF1 avait insisté pour que vous soyez dans le jury. Or, vous n'avez jamais accepté. Pourquoi ?
Non, pour deux raisons. La première, c'est que vraiment, j'étais embarqué dans un projet que je savais que je n'aurais pas le temps de faire les deux. Et la deuxième chose, c'est que je ne me sentais pas apte à juger des gens, quoi. Je ne critique absolument pas ce qu'ils font. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour. Mais quand on m'a demandé, je ne me sentais pas l'âme de faire partie du jury.
Vous dites à ce moment-là, parce que peut-être, plus tard, vous pourriez accepter.
Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, je ne le sens pas trop, mais on ne sait pas pour l'avenir. Mais je le sentais pas trop. Mais moi, j'ai fait des concours. J'étais en vacances à Saint-Brévin.
Oui.
Il y avait une voiture qui passait. J'avais 17 ans. Et avec un haut-parleur qui disait « Ce soir, grand concours de chant sur la place du marché !» Ma mère m'a dit « Vas-y !» J'ai dit « Non !» Ma mère m'a dit « Antoine, fais-toi couper les cheveux !» Ma mère m'a dit « Vas-y !» Je lui ai dit « Non, maman, je ne vais pas y aller !» Et j'étais avec un copain qui faisait partie du groupe dans lequel je jouais en banlieue. Il était venu camper, là. Et puis finalement, ma mère a tellement insisté, on s'est présenté, puis on a gagné. Mais donc, j'ai fait des crochets. Alors, vous savez ce que j'ai gagné? Un droit à auditionner chez Pathé Marconi,
ouais.
Et un diplôme du pneu Dunlop et de l'huile Le Sueur.
Bon, alors ce qui était intéressant, c'était l'audition chez Pathé Marconi. Ça s'est passé comment?
Bah, j'y suis allé, puis j'y suis allé au moins un an et demi après. Et ils ont trouvé que c'était bien, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas donné suite.
C'est vous qui n'avez pas donné suite?
Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens plus. Et alors, il y aurait eu un voice à l'époque, ou un... peut-être que je me serais inscrit, quoi. C'est pour ça, certainement, d'un seul coup, au lieu de faire sur la place du marché de Saint-Brévin, peut-être que j'aurais été à The Voice.
La place du marché de Saint-Brévin vous a porté chance, voilà, Laurent Voulzy.
Voilà. Hein,
bon, j'ai une dernière question à vous poser. En fait, Alain Souchon a confié à quelques amis, et ça m'est revenu à l'oreille. Bon, je sais que vous avez horreur d'évoquer vos projets avant qu'ils n'aboutissent, mais bon, puisque depuis 3 ans, vous avez chanté dans plus de 200 cathédrales abbatiales et basiliques, eh bien, je ne peux pas me taire. Il paraît que vous rêvez de composer une messe.
Ah bah oui, ça fait longtemps. Ouais, ouais.
Non, mais quand vous dites ça fait longtemps que vous rêvez, ou ça fait longtemps que vous écrivez vos partitions?
Non, ça fait longtemps que j'en rêve. Ça fait longtemps. J'ai toujours plein de projets comme ça. Alors j'ai écrit un thème déjà. Bon, vous savez, j'ai commencé à écrire la messe au moment où j'ai fait l'album Listen Love. Et d'un seul coup, c'est devenu Listen Love. Donc voilà, c'est toujours un projet. Mais j'adorerais. J'adore l'idée, quoi. Mais bon, là, je suis sur Jeanne.
En fait, vous l'écrivez dans votre tête.
Bah, pour l'instant, j'en rêve.
Mais, oui, mais ils sont très productifs, vos rêves. Que vous notez, paraît-il, toujours au réveil.
Ah, mais
depuis,
oui, non, mais.
Depuis près de 50 ans.
40.
Depuis 40, allez.
Allez, enfin, 42, 41. Oui, c'était en octobre 80. Oui, je note mes rêves. Mais au réveil, c'est-à-dire quand les rêves me réveillent, je les note. Avec un dictaphone ou un papier qui est près de mon livre.
Et vous rêvez de lignes mélodiques que vous écrivez, que vous notez sur une partition tout de suite quand vous vous réveillez, ou ça n'arrive pas?
Ça m'est arrivé rarement. Ça m'est arrivé d'entendre des musiques, ou bien très rarement des musiques sublimes que je suis incapable, c'est surtout des harmonies, que je suis incapable de renoter, incapable. Alors j'ai trouvé des fois je trouve des airs, alors je les enregistre sur votre dictaphone, endormi, ça donne... Bref, déjà faut décoder déjà. Faut avoir le décodage. Et alors en général ils sont pas bien. Et quand je les réécoute le lendemain, sur le coup ils me plaisent dans mon rêve. Et quand je réécoute le lendemain, je trouve ça pas extraordinaire. Mais ça m'est quand même arrivé une fois d'avoir un air que je trouvais vraiment bien.
Et qui est devenu.
Qui est jamais.
Jamais il n'a été gravé.
Non, j'ai
sur
rêvé
un CD.
Non. C'était très curieux. J'avais rêvé que j'assistais à une émission de télévision où Paul McCartney chantait. C'était en Angleterre, je voyais très bien le paysage, c'était sur une pelouse anglaise. Et il y avait un travelling avec une espèce de grosse caméra qui roulait sur une voiture à pneus. Et lui, il chantait. Et à un moment, je fais une seconde voix. Donc il vient vers moi, il me prend par l'épaule, je fais la seconde voix avec lui. Une fois, deuxième prise, je chante faux. Alors il me dit, si tu chantes faux, alors il faut arrêter. Ça me réveille, une décharge électrique. Et je me réveille, et puis je regarde l'heure, il était 9h30 ou 10h. Je dis, oulala, bon, alors je me lève, bon, je vais faire monter. Et d'un seul coup, je chante l'air avec les paroles.
La mélodie revient.
Avec les paroles.
Avec les paroles.
Et donc, j'ai chanté l'air, et je l'ai enregistré sur un mini-cassette. L'après-midi, je me suis mis au piano, j'ai chanté l'air, j'avais les accords dans la tête. Et le soir, j'ai un copain qui vient, Claude, qui a joué longtemps de la basse avec Jean-Jacques Goldman et qui est malheureusement décédé l'an dernier. Pas Jean-Jacques Goldman, mais mon copain Claude. Je lui fais écouter l'air, il me dit « C'est dingue, on dirait une chanson de McCartney ». Et alors, je ne l'ai jamais enregistré. Mais voilà, bon, ça, c'est vraiment un des seuls airs que j'ai entendu qui a donné quelque chose dont je n'avais pas honte à la fin. Après. Du coup, on peut dire que c'est pas moi qui l'ai fait.
Bon, écoutez, il faudra un jour, nous livrer un album avec des chansons qui sont toutes nées dans vos rêves. En attendant, nous, on peut plonger dans un ouvrage qui vient de paraître chez Stock, écrit en collaboration avec Laurent Geoffrin et qui a pour titre Mes cathédrales. À bientôt.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.